culture doit à tout prix s'associer à ces événements. Nous, nous avons simplement décidé de recevoir la poésie grecque au marché de la poésie en invité d'honneur en 2024. Ça sera le, symboliquement, c'était la meilleure chose à faire, puisque de toute façon, nous avons décidé de faire le tour du monde et que l'on n'était pas encore passé par la Grèce. Donc ce sera l'occasion, symboliquement, de recevoir les poètes grecs avec un grand plaisir. Donc je vais laisser la parole à Mateia Bijak-Petit, qui anime ces rencontres sur les traductions depuis quelques années déjà avec nous. Et je vais les laisser pour cet entretien. Merci.
Merci Vincent. Merci Titika Dimitroulia. Est-ce que je le dis bien, Titika?
Oui, tout à fait.
C'est bien. Chaque fois, j'ai peur. Est-ce que je vais savoir bien dire mon nom, votre nom, prénom? Et d'ailleurs, puisque je suis slovène et que Titika est grecque et que nous avons fait une connaissance il y a 10 jours par Internet en visioconférence et il y a hier en vrai, on s'est dit qu'entre amis d'autres pays, on va se tutoyer, on va continuer à faire ça sur la scène. Donc je suis très, très contente de te recevoir sur cette scène où c'est pour la 3e année où on parle de la traduction des poèmes français en langue étrangère, ce qui était plutôt rare jusqu'à présent. Mais avant de commencer, je me suis quand même fait quelques petites notes pour te présenter et je te supplie de me compléter comme il faut pour qu'on n'oublie rien d'important. Donc Titika est professeure au département de langue et de la littérature française à l'université Aristote de Thessalonique. Elle a étudié la littérature grecque classique et néo-hellénique, lettres françaises, communication, traduction et nouvelles technologies à Athènes, à l'université d'Athènes et l'université Panthéon, et à Paris, à Sorbonne, Paris 4. Jusque-là, tout va bien. Dans le cadre de son doctorat en 2005, elle a présenté une thèse intitulée « La traductique, un nouveau discours de la traduction » à première ère de la numérisation. Elle est également coordinatrice de l'Agence universitaire de la francophonie et du réseau hellénique pour la terminologie à l'Université de Thessalonique. Elle était avant responsable de la traduction au programme de formation de traducteurs hellénophones de l'Académie d'Athènes. Il y a plusieurs d'autres casques que tu pourras éventuellement évoquer. Mais elle est surtout, et c'est traductrice, critique littéraire. Elle traduit nombreux livres, pièces, Liberty. Tu as reçu en 2008 le prix de traduction du Centre européen de traduction. Sans oublier que tu es co-directrice de la revue Ta Poetica. Est-ce que j'oublie des choses fondamentales?
Non, pas du tout.
Il faut le mettre tout près de la bouche, je pense. Oui, il faut juste le mettre tout près.
D'accord. Mille merci, Mateia, de cette présentation, très détaillée d'ailleurs. Je suis très heureuse d'être là avec vous, d'être au marché de la poésie. Et je voudrais remercier le marché de la poésie et Yves Boudier, Vincent Jumeno-Pons, qui m'ont invité à participer à cette discussion, à ce débat sur la traduction de la poésie française en Grèce. Bon, moi je pense que déjà Mateia a dit plusieurs choses sur moi, ça ne vaut pas la peine que je la complète vraiment. Ce qui est important, c'est que je suis traductrice et critique littéraire, voilà. Et bon, l'université, elle a déjà mentionné. Et
je vais tout de suite enchaîner avec une question personnelle, parce que vous imaginez, quand on s'est rencontrés, on parlait peu, pas que de la traduction. On parlait surtout de la genèse de la passion pour la traduction et la genèse de l'amour pour la langue française. Parce qu'en général, les traducteurs sont forcément passionnés par les langues qu'ils vont traduire. Donc je vais aller un peu te titika titiller pour savoir quel est ton début avec la langue française.
Ah oui. Je pense que les débuts étaient un peu originaux parce que juste ma mère a décidé de me faire apprendre le français à l'âge de 5 ans, c'est tout. Mais déjà, je lisais des livres en traduction et des livres français et là, il y a eu un amour soudain pour le français. Et puis, j'ai fait des études dans l'Institut français de Grèce. Et j'ai commencé à traduire d'ailleurs très tôt, même pendant mon adolescence. Et voilà, il y a eu d'autres poètes qui sont venus, d'autres auteurs qui sont venus, que j'ai connus. Et c'est un itinéraire qui se continue jusqu'à maintenant.
Merci. C'était pas tout à fait évident de parler des choses personnelles, on a dit, surtout quand on est universitaire, mais ça me semblait vraiment important. Et avant d'attaquer plutôt la partie un peu sérieuse de cette rencontre, il me semble aussi intéressant d'entendre une de tes traductions. Donc je vais inviter notre complice auteur Pierre Sorlitti de nous joindre. Et vous allez présenter un des textes que tu as traduit.
Le texte. D'accord. Mm-hmm.
Est-ce que tu veux des feuilles?
Ouais. C'est moi qui peux commencer?
Oui. D'abord en français.
D'abord en français.
Ouais. Donc vous allez entendre le poème de Jean-Baptiste Parra, d'abord en français, puis ensuite en traduction de Titika Dimitroulia.
Ghazal pour Rosaël. Il fait nuit sur les traces du merle, il fait nuit dans ma neuvième prison. J'entends crisser le pas de la sentinelle, dimanche est le jour le plus triste en prison. Sonia, merci pour vos poids de senteur. Vos bienfaits ont la douceur de l'horizon. Vous savez qu'un nuage suffit à mon bonheur, le ciel ne contourne pas le mur de la prison. La fauvette aussi me console, la mésange de charbon au Salomon, recueillez leurs paroles, oh résine de guérison. Je ne sais pourquoi leur chant se retire d'Allemagne. Titibé, titibé, mon cœur se serre sans raison. J'entends le bruit de l'eau qui coule dans ma gorge, puis de nouveau le silence. Il ne me fut jamais poison. Les fourmis et le sable blanc sont mes camarades. Je mourrai à mon poste si je meurs en prison. Je suis lié à la vie par un fil invisible et toute créature amour a son blason. S'il vous semble parfois que ma langue sèche dans ma bouche, c'est que la racine du sacrifice et dans ce que nous taisons. Mais si je m'endors sans avoir dit les secrets de mon cœur, et si le désir concède à la mort son dernier tison, procurez-moi un mètre de tulle noire, je couvrirai mes yeux comme ceux du faucon.
Merci Pierre. Et version grecque.
Oui, j'espère qu'il y a des personnes qui comprennent un peu le grec là, parce qu'autrement, ce sera juste le rythme et la musique de la langue. Γαζάλ για τη ρόζα λάμδα. Η νύχτα πέφτει στο κοτσιφιού τα χνάρια. Η νύχτα πέφτει στην ένατη μου φυλακή. Ακούω να τρίζει του φρουρού το βήμα. Η πιο θλιμμένη μέρα στη φυλακή είναι η Κυριακή. Ευχαριστίες, Σόνια, για το μοσχομπίζελο. Γλυκιά σαν τον ορίζοντα είναι η πράξη σου η καλή. Το ξέρετε και με ένα μόνο σύννεφο είμαι πανευτυχής. Ο ουρανός στον τοίχο δεν καταργεί στη φυλακή. Και ο Μαυροσκούφης με παρηγορεί όπως και η Παπαδίτσα. Του Σολομώντα συνομιλητές σοφοί, ρετσίνη εσύ της ίασης. Γιατί το τραγούδι του στη Γερμανία χάνεται αγνώο. Τσίου τσίου η καρδιά μου σφίγγεται χωρίς αιτία και αφορμή. Στο λαρύγγι μου ακούω το νερό που κυλά και πάλι σιωπή μετά. Ποτέ μου δεν την είχα για φαρμάκι. Συντρόφους μου έχω τα μυρμήγια και την άμμο τη λευκή. Στο πόστο μου θα πεθάνω, αν πεθάνω στη φυλακή. Νήμα όρατο με τη ζωή με δένει. Στα πλάσματα όλα η αγάπη έχει θέση σημαντική. Κι άμα καμιά φορά νομίζετε πως μέσα στο στόμα μου η γλώσσα μου στεγνώνει, η ρίζα της θυσίας είναι που βρίσκεται σε όσα καλύπτει σιωπή. Αν όμως κοιμηθώ χωρίς της καρδιάς μου τα μυστικά να μοιραστώ και ο πόθος για τελευταία φορά το θάνατο δεχτεί να συδαυλήσει, δώστε μου ένα μέτρο μαύρο τούλι, τα μάτια μου σαν το γεράκι για να κλείσω. Ας είναι η πληγή το βάλσαμο που την πληγή γιατρεύει και ο πόνος μου ασμαραθεί όπως τα ρόδα μες στη φυλακή.
Merci. Moi, je pense que même quand on comprend pas, c'est la musicalité, cette autre langue. Je vous vois regarder, je vous vois écouter. C'est tellement plaisant. Donc, merci encore une fois. Comment as-tu merci choisi ce poème? Comment es-tu venu à choisir Jean-Baptiste Parra?
Ah, ça veut dire pour lire ce poème aujourd'hui
non,
ou
en général
pour traduire? Ah bon, moi j'essaie de toute façon de suivre un peu le cours de la poésie, mais il y a aussi des amours, vous savez. Et là, quand j'ai rencontré la poésie de Jean-Baptiste Parra, ça m'a parlé au cœur. Oui, ça m'a parlé au cœur. Je me suis dit bon, que je dois absolument traduire Jean-Baptiste Parra. Mais il y a d'autres poètes que j'aime bien, d'autres poètes français que je traduis. Je commence par des poèmes, des petites anthologies, et puis il y a les livres qui viennent. C'est-à-dire, en ce moment, je traduis Jean-Pierre Siméon, mais il y a plein de poètes qui m'intéressent.
Voilà. Merci. On y reviendra tout à l'heure à la traduction, mais peut-être qu'il est important de conceptualiser un tout petit peu ces échanges franco-helléniques autour de la poésie. On peut rentrer dans l'historique de ces échanges, l'influence sur la Grèce ou la France.
Ouais. Et tout à fait, mais ces échanges franco-helléniques ont une très longue histoire. Et ben, ça commence pendant les Lumières grecques qui ont été vraiment façonnées par les Lumières françaises. Et en même temps, la littérature du nouvel État grec au XIXe siècle était elle aussi façonnée par la littérature française. Et il est vrai aussi qu'en France même, est le premier pays où la littérature grecque moderne, nouvelle, est traduite. Par exemple, on sait que de 1810 à 1840, et le grec moderne était la cinquième langue la plus demandée en traduction en France. Alors il y a eu une réciprocité en ce qui concerne les échanges, mais de toute façon, ces rapports de centre et de périphérie, ça existe toujours. Et les Grecs traduisent beaucoup plus que le français, évidemment, puisqu'ils se situent à la périphérie du méridien de Greenwich, qui est Paris en ce moment. Et il y a eu alors une domination, disons, presque absolue de la littérature française, de la culture française, de la langue française sur la Grèce moderne. Et cela jusque, je ne sais pas, dans les années 60, 70 à peu près. Et cette influence-là était très, très marquée sur la poésie. Et la poésie grecque moderne a été très, très influencée par la poésie française, par le romantisme, par le symbolisme, par le modernisme, etc. Et il est intéressant le fait que même il y a eu des querelles générationnelles, si vous voulez, au sujet de cette influence, c'est-à-dire, excusez-moi, les années 30, c'est les années du modernisme en Grèce. Et vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler du nobelisé Yorgos Seferis, de Odysseas Elitis, l'autre nobelisé grec. Et la génération d'avant, et plusieurs d'ailleurs, de générations d'avant, étaient très liées à la poésie française. Et il y avait des critiques qui les condamnaient de ce fait, c'est-à-dire, bah, vous êtes influencés par la France, par la décadence, par la poésie française, etc., tandis que le modernisme, c'est un mouvement très vif, très sain, etc. Et il y a eu vraiment des querelles dans les journaux, dans les revues, sur cette influence de la poésie française sur la poésie grecque. Mais bon, c'était pendant l'entre-deux-guerres, puis Il y a eu toute une série des intellectuels et d'artistes, des poètes qui sont venus en France suite aux persécutions politiques en Grèce, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette nouvelle diaspora a donné un nouveau cours à ces échanges-là. Et en général, la littérature française a été dominante en Grèce. Et quand je dis dominante, je veux dire qu'elle vraiment, elle formait la poésie grecque, non pas seulement la poésie, mais bon, ici on parle aujourd'hui de la poésie, jusqu'après la chute de la dictature des colonels. Puis ce courant de nouvelle situation où on a eu des centres nouveaux, Londres, New York, et l'influence anglo-saxonne a été aussi présente en Grèce. Mais jusqu'en ce moment, la France est le seul pays où on peut trouver à peu près tout le canon littéraire grec traduit en français. Et la Grèce continue à être un pays où on traduit assez, non pas beaucoup, mais assez quand même, et les poètes et les auteurs français en ce moment.
Merci beaucoup. Pour faire un intermezzo, parce que comme on n'est que deux à cette table ronde, on s'est dit qu'on va ponctuer avec des lectures de poèmes traduits en grec. Donc on a choisi Apollinaire et Loire. Mais est-ce qu'il y a... Qui sont des auteurs majeurs connus en Grèce, des auteurs poètes?
Oui. Il y a eu d'abord Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. Bon, disons Baudelaire et Rimbaud, ils étaient connus un peu tôt et tout de suite. Et Baudelaire, il est toujours, toujours traduit jusqu'à nos jours. Et Rimbaud aussi. Mallarmé, un peu moins, assez moins. Et puis, il y a tous les romantiques et les symbolistes qui étaient traduits. Et c'était juste cette génération d'entre les deux guerres qui était influencée par les symbolistes. Et Apollinaire, il a été traduit, mais partiellement, je veux dire, on n'a pas des recueils en entier d'Apollinaire, ce qui est un peu bizarre, tandis que l'Otréamont, on en a deux traductions au moins. Et puis, un poète qui est très, très populaire, mais on n'a pas vraiment plein de recueils de lui aussi, mais il est très populaire, c'est Paul Éluard. Il a été introduit en Grèce par un poète majeur grec, Odysseas Elitis, qui a été nobilisé plus tard. Et le fait qu'il a été traduit par Elitis lui a donné, si vous voulez, une force pour qu'il soit enraciné dans le champ littéraire et poétique grec. Mais quand même, on n'a pas vraiment beaucoup de recueils d'Éluard. On a des poésies un peu éparses de lui traduites en Grèce, mais il est un phare, il est un poète phare. Et puis, je dois accepter le fait que les poètes de l'après-guerre, ils ne sont pas très, très connus. C'est toujours les classiques qui influencent les Grecs, même les nouveaux poètes. Et quelques nouveaux classiques, par exemple, on a des traductions de Yves Bonnefoy, on a des traductions de Philippe Jacotet, de Francis Ponge, plusieurs traductions et des traductions, mais ce sont un peu comptés, ils ne sont pas beaucoup, ces poètes-là. Et ils reviennent toujours, Lautréamont, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Éluard. Et là, je dois signaler le fait que Éluard, il est très aimé en Grèce, et Aragon, il est complètement inconnu en tant que poète. C'est parce que Éluard a été introduit par Elitis et Aragon par Nicolas Callas, mais puis il a été plutôt conçu comme un poète communiste, point final. Et c'est maintenant qu'il commence à être traduit en Grèce en tant que poète.
Merci. Est-ce que Pierre Soletti, si tu peux nous rejoindre pour la lecture en français du poème de Guillaume Apollinaire, Le Suicidé. Et puis Titika, tu liras en grec.
Le Suicidé. Trois grands lys sur ma tombe sans croix. Trois grands lys poudrés d'or que le vent effarouche, arrosés seulement quand un ciel noir les douche. Majestueux et beau comme sceptre des rois, l'un sort de ma plaie, et quand un rayon le touche, il se dresse sanglant, c'est le lys des effrois. Trois grands lys sur ma tombe sans croix, trois grands lys poudrés d'or que le vent effarouche, l'autre sort de mon cœur qui souffre sur la couche, où le ronge les vers, l'autre sort de ma bouche. Sur ma tombe écartée, il se dresse trois fois, tout seul et maudit, comme moi, je crois. Trois grands lys sur ma tombe sans croix.
Bon, moi je vais lire la traduction de Christophoros Liontakis. C'est un poète grec qui est mort très récemment et qui était francophone, qui a beaucoup traduit Éluard, Apollinaire, etc. Et qui a aussi fait la plus grande anthologie de la poésie française de notre époque. Alors, ο Αυτόχειρας. Τρία μεγάλα κρίνα. Τρία μεγάλα κρίνα στο μνήμα μου χωρίς σταυρό. Τρία μεγάλα κρίνα πασπαλισμένα με χρυσάφι που ο άνεμος σκορπίζει. Ποτίζονται μονάχα όταν τα βρέχει ο μαύρος ουρανός. Μεγαλόπρεπα και ωραία σαν σκύπτρα βασιλικά. Το ένα φυτρώνει από την πληγή μου και όταν πέφτει πάνω του η αχτίδα, ματωμένο υψώνεται, των τρόμων γίνεται το κρίνο. Τρία μεγάλα κρίνα. Τρία μεγάλα κρίνα στο μνήμα μου χωρίς σταυρό. Τρία μεγάλα κρίνα πασπαλισμένα με χρυσάφι που ο άνεμος σκορπίζει. Το άλλο φυτρώνει από την καρδιά μου που βασανίζεται στο χώμα και την τρώνε τα σκουλίκια. Το άλλο φυτρώνει από το στόμα μου στο έρημό μου μνήμα και τα τρία υψώνονται μαζί, κατάμονα, κατάμονα και καταραμένα, ίδια θαρώ με μένα. Τρία μεγάλα κρίνα στο μνήμα μου χωρίς σταυρό.
Merci. Nous poursuivons avec le poème de Éluard, Ta chevelure d'orange.
Ta chevelure d'orange dans le vide du monde, dans le vide des vitres lourdes de silence et d'ombre, où mes mains nues cherchent tous tes reflets. La forme de ton cœur est chimérique et ton amour ressemble à mon désir perdu. Oh, soupir d'ombre, rêve, regard, mais tu n'as pas toujours été avec moi. Ma mémoire est encore obscurcie de t'avoir vu venir et partir. Le temps se sert de mes mots comme l'amour.
Je continue. Alors, c'est la traduction d'Odyssée Sélitis. Πορτοκαλένια η κόμη σου μες στο κενό του κόσμου. Στα τζάμια που τα θάμπωσαν ίσκι γεμάτη από σιωπή και όπου τα χέρια μου γυμνά ζητάν να πιάσουν το είδωλό σου. Χειμερικό το σχήμα της καρδιάς σου και ο έρωτάς σου ολόιδιος με το χαμένο πόθο μου, ώστε να γμεί από μοσχολίβανο και βλέμματα και ονείρατα. Κι όμως δεν ήσουν πάντα πλάι μου. Είναι σκοτεινιασμένη ακόμα η θύμησή μου από το πήγαινε έλα σου. Με λόγια εκφράζεται και ο χρόνος όπως ο έρωτας.
Merci. Après cette période un peu creuse, si j'ai cru comprendre, après la Deuxième Guerre, tu me disais qu'en 2000, après 2000, il y a un nouveau courant qui s'est mis en place, même la création avec des auteurs, les nouvelles traductions.
Oui, mais juste deux mots sur le fait que la France et Paris étaient considérés comme le centre du monde par les Grecs, par les intellectuels grecs et les artistes grecs, comme le pays de la liberté, de la littérature et de la poésie. Et là, je voudrais juste signaler le fameux poème de Yannis Ritsos, « Lettre à la France », qui dit cette relation d'une... façon, oui. Je vais lire un extrait de ce poème. Notre sœur la France, notre sœur bien-aimée la France, nous t'écrivons rapidement deux mots sur le genou, deux mots tout simples comme notre amour, comme sont le pain, la lumière, le sel et notre cœur. Tout simple. Cela ne nous irait pas devant toi de porter nos cravates. Nous avons chemise et poitrine déboutonnées. Nous avons notre oreiller de boutonné de haut en bas, et notre rêve est déchiré, seul dans le vent, et notre âme n'est pas rasée de la barbe des partisans qui se sont retranchés à cheval sur la mort, en haut des rochers de la gloire. Notre sœur, dans le sang, nous te donnons la main, pour te serrer la main ensanglantée. Toi au moins, tu n'es pas une étrangère, tu es la nôtre. Et quand tes partisans libéraient ton Paris, nous crions dans les rues, notre Paris est libéré. Des drapeaux pleins le ciel, Athènes saluait ton armée accrochant au balcon l'espoir tricolore. Et sur les bancs de notre Kessargani, nous écrivions « Vive notre France libre !» Et là-haut, sur le pain des Alakoura, dans les fumées, les cliquetis et dans la poudre, ces nuits où le vent apportait les volutes enflammées et les cendres des villages qui brûlaient, les partisans là-haut gravaient dans le bois de chêne sauvage et dans la crosse de leurs fusils ton nom tout à côté de celui de la liberté. Toi au moins, tu n'es pas une étrangère, tu es la nôtre. Là, vous voyez un peu, c'est... Ouais, c'était vraiment cette attitude-là de la part de tous les Grecs, disons, et non pas seulement de Gans.
Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait plus cette mise en avant de la France à ce stade?
Oui, mais vous savez, c'est pas vraiment comme les rapports entre les littératures et les langues, c'est pas vraiment un rapport toujours de choix. C'est-à-dire que il y a aussi des hiérarchies, des forces, il y a des rapports de force, cela a changé. Tandis que la France, pendant longtemps, c'était le méridien de Greenwich de la littérature, ça a changé à partir des années 60, et ce changement est venu avec un peu de retard après les années 80 en Grèce. Mais il y a eu un courant plus anglo-saxon, si vous voulez, et en ce moment, c'est plutôt multicolore, c'est-à-dire des influences de partout. Mais quand même, il y a toujours des anthologies qui sont publiées de poésie française, et en ce moment, il y a aussi beaucoup de recueils de poésie française qui sont publiés de nouveau. Et ce qui est plus intéressant encore, ce n'est pas la publication des traductions, mais c'est la façon dont elles agissent sur les auteurs du pays. Et là, on retrouve des poètes, de jeunes poètes, qui sont influencés par la poésie française. C'est ça.
Très bien. Donc, il y a le futur pour la poésie française en Grèce, ce qui me permet d'arriver sur la question des traducteurs, de la traduction, de l'enseignement de la traduction. Mm-hmm. Tu enseignes la traduction de la poésie, notamment du français en grec. Est-ce qu'il y a un intérêt pour la poésie, pour cette traduction? Comment tu abordes cet enseignement?
Oui, j'enseigne la traduction de la littérature en général, de la poésie. Mais vous savez, la traduction de la poésie, c'est pas facile, ni pour nous, ni pour les étudiants. Alors oui, les étudiants, ils sont intéressés à la traduction de la poésie, mais ils trouvent aussi très difficile la traduction de la poésie. C'est pas évident, même quand on connaît très bien un auteur, un poète, même quand on connaît son œuvre, et de pouvoir rendre cette œuvre dans une autre langue. Parce que ce qui est important, c'est de recréer de quelque façon le poème pour qu'il fonctionne, si possible, de la même façon qu'il fonctionnait dans la langue d'origine. Alors, ce qu'on fait pendant les cours d'enseignement de traduction de la poésie, c'est travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les deux langues et sur leur poésie, c'est-à-dire essayer de bien repérer les moyens en langue française de la poésie, les techniques, les procédés, etc. Et bien sûr, en ce qui concerne des poètes particuliers, et essayer de voir aussi les procédés, le rythme, les techniques et tout ça en langue grecque. On insiste beaucoup à la compréhension, mais aussi à la langue de la poésie grecque, pour que les étudiants puissent sauvegarder le poids du poème. C'est pas on ne veut pas qu'il ou elle traduise mot à mot, on ne veut pas que ce soit seulement le contenu, on veut que ce soit le rythme, que ce soit la mélodie, que ce soit la musique du poème. Et pour faire tout ça, on est obligé de travailler tout le temps dans les deux langues. mais dans les deux poésies.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui finissent vraiment de traduire la poésie?
Bon, il y a plusieurs étudiants qui finissent le cours. Il y a plusieurs qui traduisent aussi. Il n'y a pas plusieurs qui traduisent très bien. C'est évident, ça. Je veux dire, il y a des gens qui aiment traduire, mais qui ne sont pas vraiment à la hauteur des exigences. C'est toujours comme ça. Mais ils veulent bien, ils le font. Ils le font, bon, disons, d'une façon acceptable, mais ce dont on a besoin, c'est d'avoir de très, très bonnes traductions pour qu'elles puissent agir sur notre champ littéraire et attirer le public. Mais bon, en ce moment, disons que nous avons des traducteurs qui sont très bien et des traducteurs qui sont bien. Ben, c'est un peu partout la même chose, je pense.
Oui, si je me souviens bien, quand on a préparé cette table ronde, on disait qu'il manque en réalité de traducteurs, qu'il manque cette passion pour la poésie aussi, qu'il manque peut-être la rigueur aussi, la nécessité de la traduction et exigence de la traduction. Et que parfois, quand les poèmes sont traduits presque en forçant, parce que c'est intéressant... de traduire dans son autre langue et qu'il faut faire très attention à ne pas faire l'inverse.
Oui, c'est vrai. Et en plus, quand on parle des poètes qui sont vraiment des poètes phares, comme c'est Baudelaire, Rimbaud, ou des poètes, de très grands poètes français, vous savez, parfois les traducteurs essayent un peu de prendre un peu de la gloire de ces poètes en les traduisant. Mais ça, ce n'est pas vraiment le désir de la traduction. Et ce n'est pas sûr que ces traductions vont fonctionner en grec. Mais en général, quand il y a des gens qui aiment vraiment et profondément des poètes français, et il faut admettre là que souvent, ces gens-là, ce sont des poètes eux-mêmes, même si ce n'est pas la règle, mais en général, les poètes traduisent très bien, pas toujours, mais en général. Et quand ils connaissent bien l'œuvre des poètes, et quand ils connaissent bien la littérature, la poésie grecque, le résultat est en général meilleur ou même très, très bon. Mais cela dit, il est vrai qu'en ce moment, on retraduit des grands classiques. Les poètes classiques français, on retraduit Baudelaire, on retraduit Rimbaud, on retraduit Mallarmé, etc. Et comme les normes de la traduction changent, et il est vrai qu'il y a un effort de rester, non pas fidèle, parce que qu'est-ce que ça veut dire fidèle ? De rester plus près à la lettre et à l'esprit de la poésie française, de ces poètes-là, et dans ces nouvelles traductions.
Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est les normes de traduction qui changent. C'est quoi ces normes de traduction ?
Oui, là, on entre en théorie, en traductologie, en théorie de la traduction, mais je pense qu'on le sait même nous-mêmes, sans la théorie de la traduction, qu'on est toujours surdéfini de quelque façon de notre époque. Et là, les traducteurs, ce sont des personnes qui, eux et elles aussi, sont surdéfinies par leur époque et par la façon avec laquelle cette époque a choisi de traduire, c'est-à-dire... Et auparavant, c'était accepté de traduire par des langues intermédiaires. En ce moment, en Grèce, c'est un peu un péché, là, c'est-à-dire de traduire indirectement. Et auparavant, c'était aussi très accepté le fait de faire ajouter des choses, d'intervenir très radicalement en traduction. Cela a changé. Et ces normes sont un peu particulières dans un pays, dans une langue, pendant une période. Et en ce moment, bien que la fidélité est rejetée au sens tout simplement interlinguistique, la fidélité en tant que cette relation de respect de la lettre, du style et de Oui, de la poésie, du poème, ça fait la règle. Alors là, c'est pour ça que les traductions sont un peu différentes qu'auparavant. C'est ça les normes qui changent.
Oui, et puis ensuite, il y a des normes qui changent dans chaque pays. Donc du coup, des fois, peut-être ça peut se entrechoquer. Si à un moment, vous avez quelconque question, surtout n'hésitez pas, parce qu'on discute entre nous, mais on est très intéressés aussi à voir vos questions. Mais je poursuis. Je pense qu'il est le moment aussi de parler de la poésie contemporaine grecque.
Mm-hmm. Mais si je me permets, je vais dire simplement qu'en ce moment, en Grèce, nous devons absolument nous occuper de la traduction des poètes français contemporains. Parce qu'on lit tout le temps Baudelaire, Rimbaud et les classiques, même Bonnefoy, etc. Mais on ne connaît pas vraiment bien le paysage poétique de la France contemporaine. Et il y a eu une anthologie en 2013 des poètes vraiment contemporains, mais on a beaucoup de choses à faire, on a du boulot à faire pour faire connaître la poésie française en Grèce. Évidemment, ce serait bien si la France aussi connaissait la poésie grecque contemporaine. Et de toute façon, il y a eu même en français des anthologies des poètes grecs contemporains. Et je dois dire que pour moi, tant la poésie française contemporaine, qui est où on trouve tous les mouvements, des mouvements différents, des courants différents, me fait penser aussi à la poésie grecque contemporaine, où on trouve tout, des mouvements modernistes, postmodernistes, existentialistes, l'angoisse existentielle, politique, très politique. Et ce qui est intéressant, je pense qu'il y a eu toute une génération dans les années 2000 où les jeunes poètes ont prévu et prédit la crise. C'était une génération qui a écrit très bien cette crise avant qu'elle ne vienne. Et ces poètes-là continuent, mais il y a toujours des jeunes poètes qui surgissent là. Et un peu comme en France, c'est une poésie ancrée à la réalité et en même temps politique. Mais politique, ça veut dire plusieurs choses à la fois. Et une poésie qui questionne même le pouvoir de la parole poétique. Et bon, ben, j'espère que quand vous pourrez lire des poèmes en traduction, en français, vous allez les trouver intéressants.
Oui, on a hâte d'être en 2023, si j'ai bien cru comprendre. Le marché de la poésie va inviter la Grèce au moment des Jeux Olympiques. Donc, du coup, ça va.
C'est pas 24.
24. Du coup, c'est 24. Oui. C'est moi qui me trompe. Pour présenter deux auteurs grecs, mm-hmm. Je pense que tu as choisi quatre poèmes.
Oui.
On peut peut-être les lire cette fois-ci d'abord en grec, puis ensuite en français.
Oui, mais je voudrais juste dire que ces deux poètes sont vraiment influencés par la poésie française. C'est Rimbaud, Éluard et Michaud pour Thomas Salapatis. Et Rimbaud, Lautréamont, Éluard et même Bettencourt, ce qui est un peu rare parce qu'il est beaucoup plus jeune, et pour Yannis Stigas. Mais il y a aussi beaucoup d'autres poètes contemporains grecs qui sont encore influencés par les poètes français. Je vais lire, moi, en grec?
S'il te plaît, d'abord en grec, oui.
Ouais. Je vais lire un poème de Stigas, le conte Lautréamont. D'accord.
Excusez-moi. Tu veux là?
J'essaie de le trouver, excusez-moi.
C'est celui-là?
Non.
Est-ce que c'est celui-là?
Voilà, je l'ai trouvé. C'est un poème de Yannis Stigas, Ο Κόμις Λοτρεαμόν, Le Comte de Lautréamont. Και ενώ όλα ήταν έτοιμα, στουπί βενζίνη και ο άνεμος με τη φορά της λύπης μου να μπει ένα τέλος οπωσδήποτε, το όνειρο δεν κάνει πλέον ούτε για προσάναμα. Καλά μου τα έλεγε η μάνα μου, ότι αυτός ο δρόμος δεν θα βγάλει πουθενά και σκοτωμένα λόγια βλέπω μες στα μάτια σου. Σε άγγιξε το τίποτα την ώρα που σε γέναγα, οπότε πάρε την ευχή μου και τούτα τα σπίρτα. Και ενώ όλα ήταν έτοιμα, διόλου δεν τρέμανε τα χέρια μου, τότε εμφανίζεται ο Ισίδωρος. Μη φωνάζει και αρπάζει τα σπίρτα. Πάρε τα γάντια μου να προκαλείς το σκότος και το φως. Το μπαστούνι μου να μην γλιστράς τις αϊπνίες σου. Και λωστός είναι. Και πάρε το ημίψιλο καπέλο μου, το είχα αντί για άγγελο. Δεν ξέρεις πόσες κραυγές χωράει στον πάτο του. Και προτού κάνεις οτιδήποτε, κοίτα να γυαλίσεις τα παπούτσια σου τσόγλανε. Δεν σε αναγνωρίζω, Ισίδωρε, του λέω. Εγώ, όχι, μου λέει. Μπήκαμε στο θαύμα γονατισμένοι, τουλάχιστον να βγούμε σαν κύριοι.
Merci, Pierre, si tu veux bien lire en français. Donc, le poème de Yanis Stigas, traduit par Volkovitch. Et c'est le conte de l'autre amour.
Le conte de l'autre amant seulement. Ouais, voilà.
Et alors que tout était prêt, chiffon, essence et vent, sous l'impulsion de mon chagrin, quoi qu'il arrive, pour que tout finisse, le rêve n'est même plus bon à servir d'allumage. Ma mère avait raison de me dire que cette route ne mène nulle part. Et dans tes yeux, je vois des paroles mortes. Le néant t'a touché quand je t'ai mise au monde. Alors sois béni et prends ces allumettes. Et alors que tout était prêt, mes mains ne tremblaient pas du tout, c'est alors qu'apparaît Isidore. Non, s'écrie-t-il. Et m'arrachant les allumettes, prends mes gants pour provoquer les ténèbres et la lumière. Ma canne pour ne pas glisser dans tes insomnies. Et un levier aussi. Et prends mon haut de forme. Il me servait d'ange. Tu ne peux pas avoir tous les cris qu'il contient. Et avant de faire quoi que ce soit, prends bien soin de cirer tes chaussures, voyou. Je ne te reconnais pas, Isidore, lui dis-je. Moi, non, me dit-il. Nous sommes entrés dans la merveille à genoux. Sortons-en au moins comme des princes.
Merci. Et puis un deuxième poème.
Oui, c'est un poème du recueil Alba de Thomas Tsalapatis. Στην πρώτη γειτονιά της Alba, τα πουλιά βουλιάζουν σαν πέτρες στον ουρανό. Στην πρώτη γειτονιά της Alba, αυτή που πρώτη συναντάς και τελευταία αφήνεις. Εδώ οι ανηφόρες αρνούνται να γίνουν κατηφόρες. Εδώ οι αδιαδρομές διαρκούν πάντοτε 10 λεπτά. Όλες οι διαδρομές. Άσχετα με την απόσταση, το μεταφορικό, άσχετα με το ρυθμό του βήματος, την ταχύτητα του οχήματος. Πάντοτε 10 λεπτά. Εδώ, στην πρώτη γειτονιά της Alba.
Dans le premier quartier d'Alba, les oiseaux plongent dans le ciel comme des pierres. Dans le premier quartier d'Alba, celui que l'on rencontre d'abord et que l'on quitte en dernier. Ici, les montées refusent de se faire descente. Ici, la durée des itinéraires est toujours de 10 minutes. Tous les itinéraires, quelle que soit la distance, le moyen de transport, quel que soit le rythme du pas, la vitesse de l'engin, toujours 10 minutes. Ici, dans le premier quartier d'Alba.
Merci Pierre Soletti, notre complice. Titika, peut-être juste une dernière question avant de finir. Est-ce qu'il y a aussi des marchés de poésie, des festivals de poésie? Est-ce qu'il y a la possibilité pour les auteurs français de se présenter, de lire en Grèce?
Oui, tout à fait. Il y a des festivals de poésie. Il y a au moins deux festivals internationaux de poésie. Mais je dois dire que les poètes français ne sont pas toujours... prête à venir en Grèce. Parce que, par exemple, cette année, on avait essayé d'inviter des poètes français, mais peut-être c'était la Covid, on n'a pas eu de représentants venant de la France au Festival international au mois de septembre. Et pour nous, ce serait une grande joie d'avoir plus d'échanges avec les poètes français, parce que je vous dis que déjà, les jeunes poètes grecs se réclament un peu de la traduction poétique française. Et il n'y a pas de marché de poésie, mais j'espère que nous pourrons faire un marché commun franco-hellénique de poésie. J'en ai déjà parlé à Yves Boudier et il a trouvé une bonne idée d'essayer de monter quelque chose comme ça. Et en plus, on a au moins ces deux festivals, ces deux grands festivals internationaux chaque année où les poètes français sont invités à venir, ce sera avec une grande joie que nous allons les recueillir. Et je me demande pourquoi on n'a pas beaucoup de candidats. Peut-être qu'ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas les invitations à temps. Il peut y avoir plusieurs raisons.
C'est pour ça que je voulais finir par cette question, parce que je pense que le lieu est parfait pour inviter les auteurs français à s'approcher de Titika Dimitroulia pour discuter leur voyage et de la traduction en Grèce. Merci Titika infiniment. Est-ce que tu as des choses à rajouter ?
Non, merci à vous. Merci à vous qui êtes là. Merci Mateia. Merci au marché de poésie. Et j'espère qu'on se reverra même en Grèce, en France, mais aussi en Grèce.
Merci encore. Merci au marché et bon marché à vous tous.